Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons et discutons des spécialités britanniques avec mes amis, des expatriés en France ou des professionnels de la cuisine. Autour d'un plat, un dessert, un gâteau, nous plongeons notre fourchette dans l'histoire et la culture de mon pays d'origine pour découvrir et redécouvrir la cuisine de Sa Majesté. Dans cet épisode, je suis avec Laura, une Anglaise qui est chef privée, développeuse de recettes et consultante culinaire, basée dans le Dorset, le sud-ouest d'Angleterre. Laura va nous raconter son parcours gastronomique qu'il a envoyé en France pour travailler avec Orlando, que vous avez peut-être entendu dans un autre épisode sur le mac and cheese. Laura a choisi de partager son crumble avec nous, ainsi que celle de sa mère, pour avoir des crumbles pour chaque saison. Alors bonjour et merci à la maman de Laura. Et c'est peut-être le crumble qui est le meilleur ambassadeur pour la cuisine Royaume-Uni en France. On va découvrir comment il a sublimé les palais des meilleurs chefs en France à Lyon. So, pinky up and let's get started. Alors, bienvenue Laura, ravie de partager un thé avec toi. C'est un peu tard dans la soirée, parce qu'en plus de ta profession, t'es mère de jeunes enfants. Donc, c'est pas évident de trouver le temps. Donc, vraiment un grand merci.
Oh, mais c'est un plaisir. Merci de m'inviter.
Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu es tombée dans la marmite? Parce que je crois que tu as commencé ta carrière dans le monde de communication et relations de presse. Alors, comment t'es arrivée à la cuisine?
Oh, en fait, j'ai toujours adoré faire la cuisine. Ma mère, elle fait la cuisine très bien. Et c'était à l'âge de presque 30 ans que je travaillais, comme tu as dit, dans les relations publiques. Un de mes clients était l'école de cuisine, Leith's School of Food and Wine, qui est très connue. C'est à Londres, mais le style, c'est complètement classique, français. C'est vraiment...
Oui, c'est la grande école. C'est l'équivalent de Cordon Bleu ou Paul Bocuse en France.
Exact. Donc, c'était un de mes clients. Et je crois qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'ai regardé ce qu'il faisait beaucoup des étudiants après de Leith's. Et je me suis dit, mais bon, ça, c'est la vie pour moi. Je ne veux plus m'asseoir pour toute la journée. Je veux faire quelque chose avec mes mains, utilise mon cerveau, mais mes mains, et d'être avec des gens et de faire quelque chose de différent tous les jours. Et aussi de travailler avec dans la cuisine, pour moi, c'était un rêve. Donc, je me suis dit, sinon maintenant, jamais. Donc,
à 30 ans, tu as fait le grand saut.
Oui.
Ça veut dire que tu as arrêté ton travail et tu es rentré dans cette école, je
oui.
crois.
Oui, j'étais étudiant, oui. Étudiante, oui, à l'âge de 30 ans. Donc, c'était... Oui, c'était un peu effrayant, mais c'était, je crois, une des meilleures choses que j'ai jamais fait dans ma vie.
Alors, je crois que tu as fait un stage chez Ottolenghi.
Oui.
Donc, les Français... ils ont découvert depuis quelques années les livres de recettes Ottolenghi. Uh-huh. Ils les adorent. Je crois qu'ils apprécient vraiment. C'est assez nouvelle pour eux, une cuisine de Moyen-Orient avec une telle variété d'épices, parfois difficile à trouver en France,
oui.
j'avoue, et l'utilisation de beaucoup de légumes. Qu'est-ce que cette expérience chez lui, qu'est-ce que ça t'a apporté?
En fait, c'était super, super. L'équipe était une équipe très diverse, très intéressante. I mean, Ottolenghi, elle est moitié allemand, moitié italien, elle vient d'Israël. Son partenaire de business, Sami, elle est palestinien de Tel Aviv. C'est une équipe pleine de gens de toutes les parties du monde. Et, mais aussi très sympa, très, très gentil, très gentil. Donc, j'étais là, je travaillais avec le chef de pâte sucrée, le pastry chef.
Les pâtisseries.
Oui, les pâtisseries, merci, oui, le chef de pâtisserie, et, qui était suédois. Et il m'a essayé de vraiment faire des créations. Il m'a montré comment faire des choses très style Ottolenghi, mais aussi elle a dit, mais Laura, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu veux le faire? Et c'était vraiment j'ai goûté beaucoup, j'ai parlé toute la journée avec des autres chefs de cuisine et c'était super.
Ah oui, donc il t'a permis d'avoir une liberté de création. C'est super.
Absolument,
ça pour
oui.
Un stage.
Et Ottolenghi, Yotam lui-même, il est vraiment très gentil, mais très supportif. Il m'a bien encouragée.
Ça, c'est très important
oui.
pour un jeune chef. D'accord. Et alors, après, je sais que tu as aussi travaillé avec Orlando, qu'on a
oui.
écouté, on a rencontré dans un autre épisode, dans son hôtel dans la Tarne.
Oui.
Tu as gardé un bon souvenir de cette expérience?
Oh, mais c'était super. C'était mon premier comme, grand travail après de finir à Leith School of Food and Wine. Et je suis allée en France et comme il est beau là-bas dans le Tarn et le manoir de Renault, il était très, 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 très beau. C'était très isolé aussi et je travaillais 6 jours sur 7. Mais Orlando, j'ai appris d'Orlando les recettes, mais aussi son style et sa passion et aussi ses standards étaient très rigides, mais dans une manière c'était dans une bonne manière. C'était
oui.
Mais vraiment, et il y avait aussi le jardin avec tous les légumes, les fruits, et nous avons changé le menu tous les jours, et c'était vraiment nous avons créé le menu selon les saisons et ce qui était mieux et de bon goût dans du jardin nous avons utilisé les ingrédients très local, par exemple le veau rose, et c'était d'une ferme juste à côté de nous, et avec des mûres et des framboises, des courgettes, les fruits et les légumes, c'était super.
Et donc aujourd'hui, tu es chef cuisinier, tu es professeur, consultante, tu
oui.
développes des recettes.
Oui.
Comment tu pourrais décrire ton style, ton répertoire culinaire?
En fait, ça dépend la saison et où je suis à ce moment-là. Par exemple, si je suis à Cornouailles, il y a beaucoup de fruits de mer et tout ça. Et si c'est dans l'été, il y a des fruits de l'été et tout ça.
Mm-hmm.
Mais je crois qu'en général, je prends mes influences sont méditerranéennes, donc ça peut être France, Italie, Espagne, mais aussi ça peut être l'autre côté de mer Méditerranée, Israël et tout ça. Donc je prends un peu de.
On a besoin d'apporter un peu de soleil parfois dans la cuisine en Angleterre.
Oh oui, exact. J'avoue, mon style de cuisine c'est pas un style anglais, c'est un mélange, mais c'est plutôt méditerranéen.
Et alors, tes chefs privés, quel genre de personne va faire appel à toi et pour quel genre d'occasion?
Oh, ça, moi, ce que j'adore, c'est de faire la cuisine pour les groupes très petits. Donc, une famille, deux familles, peut-être 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes, mais pas plus. C'est pas comme de faire des grands fêtes. Pour moi, ça me donne peur de faire la cuisine pour une centaine de personnes. Non, c'est pas ça. Donc, c'est vrai intime. C'est vraiment intime. Mes clients sont riches parce que on n'a pas l'occasion de louer un chef privé sinon, mais ils sont vraiment, vraiment intéressants. Ils viennent des mondes comme du média, musique, des acteurs, des gens du film, mais aussi des gens de business. C'est pour ça qu'ils voyagent beaucoup. Donc, leur influence de la cuisine qu'ils aiment, c'est vraiment de tout le monde. Et aussi, d'habitude, ils ont des collections de vins qui sont super. Donc, pour
ah
moi,
ouais.
de faire un mariage entre ma cuisine et leur vin, ça peut être super. Donc, j'ai rencontré des gens vraiment, vraiment intéressants, mais aussi vraiment très, très, très sympas et très gentils. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que j'ai entendu des histoires horribles d'être chef privé avec des clients qui sont cauchemars, mais moi j'ai eu de la chance, je crois.
Bah super. Alors, c'est vrai que c'est passionnant ce que tu fais. On pourrait parler toute la soirée, mais il faut qu'on arrive à notre plat. Mais juste avant, je sais que tu travailles aussi pour un produit bien français.
Oui.
Que tu travailles, alors je crois que c'est le collectif des fermiers pour le comté, le fromage. Oui. Tu fais quoi? C'est à Londres, ça?
C'est, en fait, oui, c'est à Londres. C'est basé à Londres. Et je développe 6 recettes chaque année. Et je le fais depuis 7 ans, je crois, maintenant. Donc, c'est 6 recettes chaque année. Et c'est, j'utilise le comté, mais je peux prendre de l'inspiration du reste du monde. Je le mélange pas trop. C'est pas comme une fusion à l'extrême. Mais c'est, je peux, par exemple, j'ai fait quelque chose avec un peu du style du Reuben sandwich, qui est vraiment new-yorkais. Donc, il y a de bœuf salé dedans et des cornichons et comté et une sauce qui est un peu comme une sauce, je crois que ça s'appelle comme une sauce rousse. Ça, c'était une chose. Et le choucroute dedans, mais vraiment du style allemand, comme sauerkraut. Oui. Et ce sont des saveurs qui... Oui, le comté, ça se donne très facilement à beaucoup de cuisines différentes. Un peu espagnol, un peu italien, un peu anglais, un peu... Et français, bien sûr. Mais non, c'est une cliente que j'adore. Et donc, chaque janvier, il y a 3 âges différents de comté arrivent chez moi. Et mon mari et moi, mais ok, bon, c'est un peu que c'est janvier, c'est le mois de comté et je commence.
Mais c'est moi, c'est un de mes fromages préférés et c'est fabriqué dans le comté juste à côté de moi.
Le Jura,
dans le comté du comté, dans le Jura, parce que moi je suis en Alsace.
Oui.
Et c'est vrai, j'adore le côté sablé quand c'est 24-32 mois, c'est vraiment
c'est super. Délicieux. Oui, c'est super.
Bon, alors, en Angleterre, on mange le fromage après le dessert, mais là, on va parler du dessert. Et le plat que tu as choisi, c'est le crumble.
Oui.
Alors, c'est certainement un des desserts britanniques le plus connu et même le plus apprécié en France. Et pour toi, c'est un dessert de ton enfance?
Oui, c'est quelque chose que ma mère, elle a fait des crumbles, elle a changé des fruits selon la saison. Et toujours, elle adore faire le crumble. Par exemple, presque chaque dimanche, nous allons chez ma mère pour le déjeuner de dimanche, que c'est, en Angleterre, c'est très important. Et elle m'a dit...
Le Sunday roast.
Oui, Sunday roast. Et elle le fait chaque dimanche. Parce qu'elle habite toute seule, donc pour elle, elle a dit, oh, il faut pas que j'oublie comment faire la cuisine pour une groupe. Et nous sommes ravis d'aller chez elle pour le déjeuner. Et elle va faire un crumble aux pommes, parce que c'est novembre. Les pommes en Angleterre sont super maintenant. C'est comme la fin de saison et c'est ce qu'elle va faire. Mais sa recette pour le crumble, c'est différent que le mien.
Bah, je crois qu'il y a beaucoup de recettes différentes. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu n'as pas besoin d'une recette exacte.
Non.
C'est beaucoup moins de travail que si tu fais une tarte. Parce que si tu ne sais pas bien faire la pâte et le rouler, ce n'est pas grave. C'est le crumble, c'est quelque chose un peu approximatif qu'on peut faire de plein de manières différentes. Mais toi, tu as certainement une recette à toi.
Oui. Et la recette que je fais. Je peux faire la garniture, ce qu'on dit en anglais, the topping, en avance. Et tu peux faire et tu peux garder la garniture pour 2 semaines.
Ah, c'est une très bonne idée, ça.
Si c'est dans une Tupperware, oui. Donc, et aussi, ce qui est super, on peut faire comme pour 2 personnes ou pour une groupe. Mais si tu n'utilises pas toute la garniture, tu peux le garder. Et c'est super. Et il y a beaucoup plus croquillon, crunchy.
Oui, c'est croquant.
Croquant, merci. Oui. Croquant, c'est ça. Donc, moi, je crois que le mien, c'est super, particulièrement dans l'été, avec quelque chose comme les pêches ou des framboises ou quelque chose comme ça.
Donc, c'est vraiment un dessert qu'on peut adapter aux saisons. Donc, à la base du dessert, c'est un compote de,
oui.
de fruits.
Exact.
On aurait cuit dans le four.
Oui.
Et par-dessus, cette topping, cette garniture, oui. c'est un mélange de farine, de beurre et de sucre. Mais peut-être toi, tu mets autre chose aussi.
Oui, moi, j'utilise comme... Il y a deux types de sucre. Il y a sucre cristallisé, mais aussi sucre cassonade. On peut utiliser cassonade cuivrée ou ambrée, je crois qu'on dit en français. S'il y a toujours, comme dans presque tous mes desserts, une pincée de sel, mais du bon sel, comme sel de... On dit Malden sea salt en Angleterre, mais fleur de sel
Malden.
En français, je crois. Un tout petit peu de ça, ça fait une grande différence. Il y a aussi un extrait de vanille, mais de bon vanille. Mm-hmm. Et des amandes. J'utilise des amandes effilées ou tranchées.
Mais qu'est-ce que c'est les deux sucres? Le fait de mettre deux sortes de sucres, qu'est-ce que ça apporte en plus?
En fait, le sucre cassonade, ça donne vraiment, il y a un bon, c'est pour le saveur. C'est une saveur plus intense, plus riche. Mais aussi, il faut, pour la texture, c'est bon d'utiliser aussi le sucre cristallisé.
D'accord.
C'est toujours l'équilibre entre texture et saveur.
Et le crumble lui-même, cette garniture, tu le fais comment? Avec les doigts?
En fait, dans une Magic Mix. On peut le faire avec les doigts si on n'a pas un Magic Mix, mais moi, je fais dans le Magic Mix. Il faut faire comme une... Il y a des... Je dis blitz. On fait comme en puce.
Pulse,
pour comme 1 seconde, 2 secondes. Il faut pas le laisser comme, parce que sinon ça devient trop tough, trop dur. Mm-hmm. C'est pas bon. Mais le grand problème avec cette garniture quand on le fait en avance, c'est de ne pas le manger. Parce que c'est un peu comme un snack. On peut être là dans la cuisine et on fait quelque chose et on prend un tout petit peu. Oui, c'est très, très, très dangereux.
Ouais, absolument. Mais l'idée, c'est de finir avec quelque chose qui ressemble entre un peu des miettes et des grumeaux. Faut pas
absolument.
Que ce soit... Ça n'a pas besoin d'être complètement régulier.
Oui.
D'ailleurs, c'est toujours plus délicieux quand tu as un petit peu des grumeaux d'amandes avec du beurre, etc.
Oui.
Et c'est la simplicité, c'est la facilité du dessert qui est vraiment bien. Donc, on met ça dessus, sur les fruits, et on met au four.
Oui.
Et puis, voilà, c'est tout simple.
Et moi, ça dépend. Il y a quelques fruits où il vaut la peine de faire une compote avant de le mettre dans le four. Il y a des autres fruits qui sont plus mûrs, plus doux. C'est pas nécessaire de les faire cuisiner avant.
Faire cuire avant.
Faire cuire, merci. Je me suis dit, c'est pas faire cuisiner.
Non. Mais aussi dans les pommes, parce que voilà, moi, mon grand favori, c'est le pomme.
Oui.
Mais je trouve que c'est important de prendre les bonnes pommes. Il ne faut pas utiliser le golden, ça n'a aucun goût.
Non.
Il faut des pommes un peu acidulées, fruitées, un peu comme un boscope ou une rainette,
je pense. Comme en Angleterre, c'est comme les Bramley, les cooking apples.
Le Bramley,
Bramley.
Ça, je n'ai pas trouvé en France, mais...
Non.
En tout cas, les plupart, mais vraiment pas les golden qui sont fades, qui donnent pas de goût.
Non, et pas les Granny Smith ou quelque chose comme ça, qui peut être super dans une salade, mais non, ils sont absolument pas bons pour un crumble.
Tout à fait. Et après, on mange ça parfois avec la crème anglaise.
Ouais, ça, c'est vraiment, ça, c'est toujours, même en Angleterre, il y a les grands discours sur le sujet de ce qu'il faut et faut pas manger avec le crumble. Pour moi, je crois une bonne glace vanille est super. Ou moi, je préfère gelato. Je préfère le style italien parce que c'est un peu plus léger. Mais une glace de vanille, je crois, est super. Et sinon, crème fraîche ou juste un peu de crème.
Clotted cream,
si on est à Cornouailles ou à Devon. Mais quelque chose que nous avons fait au manoir de Reno, c'est de mélanger moitié-moitié crème fraîche et mascarpone.
Ah oui.
Et on met les petites graines de vanille, d'une gousse de vanille, vanilla pot, gousse de vanille, et un peu de sucre glacé au goût. Mais ça, c'est vraiment, il faut goûter, il faut décider combien de sucre. Et si on le fait en avance, et on peut le verser dans une passoire, et ça, c'est pour évacuer l'excès de l'eau. Parce que cette mélange, donc si on fait ça, c'est très bon avec.
J'ai pas essayé, je vais essayer ça.
Crème fraîche et mascarpone, vanille et un peu de sucre. Super.
Délicieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est le crumble, en fait, c'est un dessert assez récent.
Mm-hmm.
Il a été inventé, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dû au rationnement du beurre et du sucre.
Mm-hmm.
Donc, le apple pie, le traditionnel tarte aux pommes, c'était plus possible. Et donc, avec le peu qu'il avait, il pouvait faire ce crumble, cette garniture, et donc le saupoudrer le fruit. Et ça date donc, parce que ma mère n'a aucun souvenir d'avoir mangé ça petit.
Ah.
Bien sûr, elle fait aussi maintenant, mais c'est vraiment un de nos desserts le plus récent.
Ah.
Et puis c'est vrai que les Français, moi je le trouve de plus en plus dans des restaurants ici. Et il y a même un article dans le journal britannique Le Guardian,
mm-hmm,
de 2005 qui prétend que c'est le crumble qui a un peu renversé la réputation de la cuisine britannique, qui n'est pas toujours bon.
Merci au crumble.
Merci au crumble, le humble crumble.
Nous en avons besoin d'un peu d'aide, parce que
voilà,
la réputation, c'est pas bon.
Mais alors, une petite histoire que j'adore, c'est Raymond Blanc, qui est vraiment un chef cuisinier français très célèbre en Angleterre avec son restaurant étoilé, mm-hmm, le Manoir des Quatre Saisons. Alors, il raconte dans un podcast avec Jilly Smith, Cooking the Books,
ah oui,
qu'il est venu à Lyon pour un documentaire,
mm-hmm,
pour cuisiner pour les plus grands chefs dans Paul Bocuse. Et alors, il a décidé de faire pas un, mais deux crumbles. Alors, il a fait un crumble aux fruits et une variante d'un crumble renversé au chocolat.
Uh-huh.
Et alors, les chefs étaient moqueurs et incrédulés qu'il allait faire un dessert anglais.
Mm-hmm.
Mais après avoir mangé, ils l'ont applaudi et ils sont mis debout pour chanter la Marseillaise. Par contre, alors là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que lui effectuait le crumble à part sur une plaque dans le four,
mm-hmm,
parce qu'il dit qu'il aime pas quand ce soit mou. Alors que moi, j'adore fait que ce soit croustillant au-dessus.
Mais Sarah, moi, je fais le même que Raymond Blanc.
Ah, ben ça, écoute,
mais
moi,
ma mère
pas...
est d'accord avec toi. Ma mère est complètement d'accord avec toi et j'adore son crumble. Mais moi, c'est pour ça que je dis que c'est super pour l'été parce que c'est un peu plus léger.
Oui, d'accord. Et je pense que c'est peut-être un peu plus travaillé, un peu plus gastronomique quelque part, un peu plus raffiné.
Oui.
Mais moi, c'est vrai, moi, j'adore le côté comfort food.
Oui.
Parce que ma mère faisait comme ça.
Oui.
Et quand le crumble est un peu trempé dans le jus comme ça, oh, j'adore ça.
Oh non, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est dans l'hiver, oh, c'est super. Et pour moi, il faut le manger avec crème anglaise. Et ça peut être fait avec Bird's Custard Powder, ce qui, je crois, est absolument dégoûtant pour les Français.
Mais même pour moi, c'est trop sucré maintenant.
Oui, exact. Je crois que si ma mère le fait avec Bird's Custard Powder, elle utilise moins de sucre que ça suggère.
Ouais.
Mais
d'accord.
Vraiment, c'est Bird's Custard Powder dans une crème anglaise avec un crumble dans l'hiver, c'est super.
Ouais, c'est
une guilty pleasure.
Guilty pleasure, comme tu dis, voilà. Mais pour parler de notre réputation en France, notre cuisine, j'ai une petite histoire qui concerne le crumble, parce que j'étais invitée à déjeuner chez une amie,
mm-hmm,
et donc j'ai proposé d'apporter le dessert, et je lui dis, écoute, je vais te faire un crumble, oh là là, oui, je sais pas ce que c'est, oui, avec plaisir. Et donc, j'arrive avec mon crumble, aussi avec un pot de crème fraîche.
Mm-hmm.
Et comme en fait il y avait un petit rayon dans le supermarché des produits britanniques, je lui ai pris un petit pot de marmelade au citron vert en passant, comme juste comme petit cadeau. Et donc j'arrive avec ces trois choses et après le plat principal, donc elle va chercher le dessert dans la cuisine et elle arrive sur le plateau, le crumble, la crème et le marmelade.
Oh.
Et là, j'ai dit, non, mais on mange pas le marmelade avec le crumble. Et je me suis dit, vraiment, l'image qu'ils ont, les Français, de notre cuisine,
ouais,
on a encore beaucoup de travail à faire.
Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que les Français pensent que la cuisine britannique est si mauvaise que anything goes.
Oui, c'est ça. Non, oui. C'est bizarre parce qu'ils souvent ils disent que c'est très mauvais, mais il y a beaucoup de choses comme le crumble, comme le fish and chips, que finalement, ils adorent.
Oui.
Ouais. Mais toujours room for improvement.
Oh, toujours.
Alors, maintenant, on va arriver à ton faux pas, ton moment de faux pas culinaire. Alors, soit un malentendu ou un moment de gêne, peut-être, dans la cuisine.
Ah oui. En fait, ça, c'est dans mes jours de chef privé. J'avais des clients très intéressants. Et c'était un couple pour qui je faisais la cuisine. Et il m'a dit une soir que, bon, nous avons des amis qui viennent pour le dîner ce soir. Sont Andrew Ridgely, qui est moitié de Wham, et sa femme, Karen Woodward, qui est un tiers de Bananarama. Donc, pour moi...
Les groupes de oui, rock, là, Wham exact, avec George Wham, Michael.
Donc, exact. Andrew Ridgely et George Michael étaient Wham.
Ah,
et
oui.
Karen Woodward et deux autres femmes étaient Bananarama. Donc, dans Grande-Bretagne, dans les années 80... Ils étaient énormes, mais partout et absolument énormes. Donc, pour moi, une fille des années 80, j'étais absolument comme starstruck, on dit en anglais.
Mais j'étais comme
très professionnelle. OK, je peux le faire. Donc, c'était au début de la soirée et j'ai passé un verre de vin à Andrew Ridgely. Et elle était charmante, très gentille. Et elle a pris ce verre de vin. Et en le faisant, elle a très légèrement brossé mon sein. Et moi, j'ai rien pensé. Je savais que c'était complètement par hasard. C'était absolument rien. Mais elle a dit très fort, en anglais, elle a dit, « Oh gosh, I'm so sorry, I didn't mean to frot your boob. » Ce qui est en français, c'est, « Oh mon Dieu, je suis désolée, j'ai pas voulu frotter ton sein. » Et moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit, like, « Oh, don't worry, you're welcome. Like, oh, de rien, je vous en prie. Like, » Et sa femme lui a donné comme un regard un peu comme amusé, un petit peu. C'était pas la première fois, je crois, qu'il a dit quelque chose comme ça, comme « I'm so sorry to frot your boob. » Et elle a utilisé le mot « frot », ce qui est un mot très français.
Ben oui, c'est bizarre, c'est pas anglais.
Mais moi, j'étais comme... Vous êtes Andrew Ridgely, vous pouvez faire ce que vous voulez, vraiment, c'est... Oui.
C'est génial. Bon, ben, merci beaucoup, Laura.
Pas du tout, vraiment. C'était un plaisir.
Et j'encourage tout le monde d'essayer ta recette de crumble.
Merci, oui.
C'est très simple, le crumble. Et peut-être, du coup, pour les Français qui ont des a priori sur la cuisine anglaise, c'est peut-être un bon moyen de tester... la cuisine anglaise et peut-être comme l'exemple de Raymond Blanc, peut-être vos amis vont commencer à chanter God Save the Queen s'ils sont contents. Mais en tout cas, un grand merci.
Ouais, merci à toi pour m'inviter. Vraiment, c'était un plaisir.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez les deux recettes pour les crumbles sur mon site web. La prochaine fois, je suis avec Sarah pour parler de la mère de tous nos puddings, le Christmas pudding. Donc, j'espère que vous pouvez me joindre pour ce nouvel épisode. Et parce qu'on parle d'Apple Crumble, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, pourquoi pas me noter et laisser un avis. Donc, à la prochaine fois, je vous dis cheerio and see you soon.